Aménager les territoires. Comment transformer nos manières de voir et de faire notre cadre de vie face aux enjeux contemporains? Les CAUE, Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, partagent leurs réflexions, leurs actions et leurs expérimentations pour continuer à l'améliorer à toutes les échelles et dans tous les contextes, du grand paysage au logement. Une série de 5 podcasts réalisés à l'occasion des universités d'été des CAUE à Strasbourg du 5 au 7 juillet 2023. Épisode 5, chez soi. Joël Beaugrasset, président de la Fédération nationale des CAUE.
On dit souvent que les CAUE sont là pour sensibiliser les habitants au cadre de vie, à l'architecture, mais on n'a pas souvent les moyens de les toucher. Hein. Les CAUE sont des structures qui sont quand même pas très connues. Elles sont surtout connues par les maires, par les institutions, l'éducation nationale, puisqu'on fait de la sensibilisation, mais pas forcément par l'individuel. Et donc, il est vrai qu'il est difficile d'arriver à toucher des gens, ne serait-ce que bon, au moment du dépôt de permis de construire, au moins c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une relation avec eux, mais après, c'est quasiment fini.
Alain Charrier, président du CAUE de la Gironde et vice-président de la Fédération nationale des CAUE.
On travaille avec les Comcom ou les mairies, on a des affiches, les secrétaires de mairie sont au courant, connaissent les dates de nos permanences, et quand un particulier vient et demande un rendez-vous, ben on donne le rendez-vous. Après, on essaye aussi de faire, je dirais, un peu de publicité. Alors on l'a fait une époque sous forme d'émissions de radio. Alors là, on a arrêté parce que Radio France Bleu a voulu arrêter, mais pendant des années, on a fait une veille juridique sur Radio France Bleu. Ensuite, on a aussi des journées de sensibilisation où on va à la rencontre des particuliers, alors avec les journées du patrimoine, avec les enfants du patrimoine aussi. Et puis, on a un concours d'architecture.
Élodie Vouillon, directrice du CAUE de la Gironde.
Alors, dans le cas de nos permanences, et on en a 60 sur le département tous les mois, on a régulièrement et principalement des demandes sur le projet d'architecture, la maison. Mais au fil des années, on a créé des permanences thématiques également au siège sur le jardin, donc des permanences paysages, juridiques pour tout le volet plus réglementaire sur comment lire un règlement d'urbanisme qui peut faire parfois un peu peur. On a aussi des permanences qu'on appelle archi-énergie, où là on a une spécialiste qui va parler d'isolation, de matériaux, pour entrer plus dans le dur des économies d'énergie. Voilà, nous avons aussi, alors à force de, lors des permanences, des questions reviennent tout le temps. Donc on a créé une série de qu'on appelle les notices. Ce sont des supports, des petits dépliants où on va parler de rénover sa maison, agrandir, surélever son échoppe et par exemple comment gérer aussi son jardin, l'arbre, la clôture, etc. Et puis dans les problématiques que nous rencontrons plus récemment, il y a toute la question des matériaux locaux. On parle beaucoup de matériaux biosourcés, etc. Donc bon, les gens sont intéressés. Mais la question, c'est finalement lesquels et où les trouver. Donc on a créé aussi une série de notices là-dessus. Donc en Gironde, on va être sur la pierre de Bourg bien blonde, sur la chaux, sur le chanvre, sur voilà, toute une série de matériaux qu'on va trouver vraiment localement. Et on vient de sortir aussi une carte qu'on appelle Panorama des matériaux locaux, mais sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc qui peut servir aussi aux autres CAUE. Et là, ça permet aux gens de se dire, bon, ok, je veux construire avec un matériau local, mais où est-ce que je le trouve? Voilà. Donc on a vraiment des problématiques très très larges, avec un vrai souci là de dépenser moins d'énergie, d'être économe. Les gens ayant un budget de plus en plus limité, le pouvoir d'achat est impacté. Et puis il y a vraiment une envie, un intérêt pour l'écologie, l'environnement, arrêter de polluer, etc.
Alain Charrier.
Aujourd'hui, c'est intéressant quand même de voir comment on peut effectivement améliorer le confort du logement et comment on peut le rendre plus sobre. Après, il y a aussi dans la construction, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux avoir une construction qui soit plus sobre et qui puisse répondre aux critères qui vont s'imposer très rapidement à chacun. Ouais. Et donc là, on est capable d'aider les particuliers et surtout d'éviter les pièges. Parce que globalement, quand vous allez tomber, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand vous allez avoir quelqu'un qui va sonner à la porte, il va dire « Oh, votre appartement ou votre maison, c'est une passoire thermique, il faut l'isoler, il faut… » Oui, mais ça ne s'isole pas n'importe comment, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des matériaux qui existent et souvent les gens qui viennent, ils viennent pour vendre un produit. Et puis on s'aperçoit que quand la personne fait expertiser sa maison, son appartement, ce qui a été fait ne correspond pas forcément aux normes actuelles, même s'ils vous l'ont promis, et souvent ils ont dépensé de l'argent pour rien. Donc je pense que tout particulier, quand il veut isoler sa maison, il a tout intérêt d'aller voir un CAE, parce qu'on fait tout ça, et de voir quels sont les matériaux qu'il faut employer, d'abord par où commencer. Parce que isoler une maison, par exemple, ça coûte très cher. Et par où ça va d'abord, on sait que la toiture, par exemple, c'est 25 à 30% d'évaporation de la chaleur en hiver. Et c'est de la chaleur qui rentre aussi en été. Donc voilà, c'est les aider et les aider aussi à programmer leurs travaux.
Élodie Vouillon.
Au fur et à mesure des années, on voit vraiment une augmentation régulière de notre conseil sur le volet réno et intervention sur l'existant, et de moins en moins sur la construction. Donc ça, c'est vraiment un indicateur. Et c'est vrai que nous avons tendance à mettre en avant plutôt pas de construction, mais d'intervention, pour montrer qu'on peut recycler la ville et donner une deuxième vie à une maison, un bâtiment, etc. Mais du coup, les exemples sont assez nombreux, ne serait-ce qu'à Bordeaux, avec l'exemple de l'échoppe. L'échoppe qui est la maison traditionnelle, une façon de faire du lotissement à l'époque, de qualité, avec des maisons accolées, en rez-de-chaussée, avec pièces noires au milieu, enfin c'est très codé. Et l'enjeu maintenant, c'est de comment les surélever, comment faire la ville sur la ville. Donc la ville de Bordeaux, par exemple, on en trouve également à Libourne, hein, la ville de Bordeaux réglemente cela pour essayer de garder une harmonie, puisqu'il y a aussi le secteur UNESCO qui est en jeu. Voilà, donc nous essayons de mettre en avant ce genre d'intervention. Comment garder l'esprit tout en étant contemporain. On est très attentif au dialogue, en fait, avec l'ancien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières, on dit plusieurs postures, hein, voilà, pour être un peu plus technique, mais il y a plusieurs façons de dialoguer avec une architecture. Soit on est dans la prolongation et on dit qu'on fait du mimétisme et on essaie de reproduire, ce qui est un petit peu glissant parfois. Soit on s'inscrit un peu en opposition avec du très contemporain. Mais l'idée, c'est toujours de faire un rappel, de s'inspirer de l'architecture existante et puis d'utiliser par contre un nouveau matériau. Mais on peut aligner des fenêtres, faire attention aux transitions. Et, voilà, ce sont des principes très, très basiques, mais qui permettent de faire évoluer une architecture tout en gardant une identité. Les jardins, c'est beaucoup plus récent. C'est dû aussi à l'arrivée au renforcement de notre pôle de paysage au CAUE. Et nous avons créé il y a 5 ans ces permanences au siège à Bordeaux. Et petit à petit, elles se remplissent. Elles gagnent encore à être connues. Mais nous allons travailler sur des ateliers en groupe, par exemple, pour choisir les bonnes essences, les bonnes plantes, les bons arbres à la bonne saison. Nous allons essayer de traiter comme ça plus précisément des thématiques. Et oui, pour l'instant, je dis qu'elle démarre, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire avec la question des îlots de fraîcheur, comment rester en ville avec ce réchauffement climatique, hein, qui nous guette, puisqu'à Bordeaux, on nous dit qu'en 2050, on aura le climat de Séville, donc la question du jardin, elle est importante. Et puis les cœurs d'îlot liés aux échoppes, aussi ça fait vraiment partie de l'identité bordelaise, sont un vrai levier aussi, une vraie richesse justement pour essayer de garder cette fraîcheur et de rester habité à Bordeaux.
Alain Charrier.
On a plus de rendez-vous dans le monde rural où les gens effectivement sont plus attentifs à ça et les élus ont plus de proximité avec dans le monde rural qu'un élu comme moi qui suis en grande ville où effectivement mes élus me connaissent, mais mes administrés me connaissent, mais pas comme on peut connaître le maire de son village quand on est dans un village de 500 000 habitants.
Et est-ce que vous diriez que dans le monde rural, les habitants sont plus sensibilisés au dérèglement climatique ?
Ils s'en rendent plus compte. Alors, plus sensible, je ne suis pas sûr, parce que moi, j'ai plein d'administrés sur mon canton ou sur ma ville qui sont très sensibles, qui font plein d'actions. Mais dans le monde rural, on le vit différemment. Quand on a un jardin, par exemple, on s'aperçoit qu'effectivement, on a moins d'eau pour arroser. On a les quantités d'eau qui tombent sont moins importantes. La végétation réagit plus comme elle réagissait. Et donc, ils sont plus en prise. Mais plus sensibilisés, je ne suis pas sûr. Après, il y a aussi, je dirais, tout un côté des urbains qui rêvent d'une nature idéale et qui veulent transformer la nature et qui sont prêts à faire transformer la nature des autres sans savoir vraiment ce qui s'y passe. Et donc, ils ont une sensibilisation, mais qui n'est pas forcément en connexion directe avec la nature. Mais ils sont très performants souvent, ils ont plein d'idées.
Didier Yokessa, directeur du CAUE de la Martinique.
Donc, on a un territoire insulaire avec tous les risques naturels et tout existe sauf les avalanches pour le moment, parce que réchauffement et changement climatique, on ne sait pas. Mais c'est vrai que beaucoup de nos sollicitations sont très liées à des problématiques qui sur lesquelles le climat, le vent, la pluie, la houle cyclonique, les embruns abîment durablement les bâtiments. Donc effectivement, beaucoup de nos demandes vont venir pour soit du confortement, soit de l'amélioration. Mais aussi, nous avons une autre clientèle, si je peux m'exprimer ainsi, c'est les personnes isolées, les personnes âgées. Les territoires insulaires, comme sont la Martinique et la Guadeloupe, et pas encore la Guyane et la Réunion, mais bon voilà, nous avons une population qui est très vieillissante. Une population qui, on perd pas mal de naissances, enfin on a peu de naissances, de moins en moins de naissances, on a 365 000 habitants aujourd'hui en Martinique, avec une population âgée, isolée, donc beaucoup de maisons, d'appartements à mettre en accessibilité, beaucoup de conseils pour des sorties de succession, de la revente, de l'amélioration de l'habitat, et puis globalement... dans des conseils très sensibles. Quand je dis sensibles, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui ont épuisé l'ensemble des questions que peuvent être les partenaires comme la DIL, etc., les conseillers régionaux et tout ça, et qui vont vraiment venir nous apporter leurs problèmes et qu'on va essayer de résoudre de manière un peu globale en regroupant à chaque fois les différents partenaires. Parce que le CAUE de Martinique, on n'a pas l'ambition de pouvoir tout faire, c'est une petite équipe d'ailleurs. Et donc faire travailler le réseau, agences urbaines, les CCAS, etc., mettre un peu tout le monde, en branler tout le monde. Voilà. Nous sommes un petit peu, on se considère un peu comme un hub sur cette question. Alors, les habitants sont préoccupés par deux choses. D'abord, pour une grande partie d'entre eux, ils ont fini par comprendre qu'ils étaient en danger. Donc, c'est une réalité qui est visible aujourd'hui, parce qu'on a des arbres qui ont disparu, il y a des plages qui ont disparu. Donc, la montée inexorable de l'eau est une réalité aujourd'hui. La préoccupation des gens est de savoir quoi faire. La réponse la plus simple, c'est de relocaliser. Sur un territoire qui fait 32 km de long, relocaliser veut dire aller habiter plus haut, plus profondément, et donc se trouver avec un autre aléa, parce que l'autre élément naturel de la Martinique, c'est la montagne Pelée. Donc c'est un volcan encore actif, qui est endormi mais encore actif. Donc on va se retrouver, on va quitter des problématiques littorales dites de submersion marine pour aller rencontrer des problématiques de glissement de terrain, etc. Donc la solution n'est pas évidente, d'autant plus que, je vais parler de l'île, on va très vite rentrer dans des frictions avec du foncier qui est en protection ONE, du foncier SAFER, du foncier privé, de manière générale. Et puis le reste est souvent inconstructible. L'autre mesure sur laquelle nous prenons... une recherche. Nous essayons de pousser un petit peu à la sensibilisation. C'est finalement d'essayer d'adapter une architecture et de travailler avec une... Vous savez, dans ces îles-là, on est des résilients par nature, parce qu'on est loin, parce qu'on est habitué un petit peu aux cyclones, aux mauvais temps. Et c'est vrai que les gens ont développé une culture de résilience, une culture de savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir-être, qui doit trouver sa place dans les nouvelles réflexions que nous faisons avec l'ADA, les différents partenaires d'études. Donc travailler peut-être à l'émergence d'une architecture littorale qui serait non pas permanente, parce que ça va continuer à augmenter, mais qui permette à l'homme, un peu comme les ancêtres des Antillais, qui sont les Kalinagos, qui sont des anciens Caraïbes, avaient cette notion de... étaient des nomades des îles, en fait, qui pouvaient avoir un hébergement, une habitation à l'intérieur des terres et puis une habitation littorale. Alors il n'y a peut-être pas de place pour tout le monde pour faire ça, mais il y a un peu quelque chose à prendre de cette culture de se déplacer en fonction de l'urgence, de se mettre en refuge et de revenir ensuite. Alors en Martinique, il y a une étude qui a été lancée il y a quelques années, qui est passée de l'étude à la réalisation, qui est menée par le PUCA, l'ADA et l'Agence des 50 pages géométriques de Martinique, qui a réussi avec un savant mélange de concertation, qui était nécessaire, comme je l'ai dit, parce qu'il y a une culture d'habitat dans ces quartiers littoraux, à faire émerger une acceptation de la population pour un recul, donc pour habiter les mornes, globalement, les mornes étant les petites collines martiniquaises, qui donnent en même temps lieu à des prototypes d'habitat qui vont être résilients, biosourcés, parce que aussi c'est une autre problématique, on n'en a pas parlé, mais notre éloignement fait que nous sommes très dépendants de la métropole pour les matériaux, etc. Et qui est censé être une réponse qui serait duplicable sur le territoire. Mais pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, ce n'est pas duplicable sur toutes les parties du territoire, parce qu'il faut encore trouver du foncier pour pouvoir faire construire. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, et cette relocalisation d'habitat s'est accompagnée aussi d'un projet d'école qui est à la fois un refuge et aussi un centre, on va dire, de opérationnel en cas de crise. Sur la problématique des personnes âgées, les communes sont, toutes les communes de Lille, les 34 communes de Lille, sont concernées par cette problématique. Pour notre part, CAIE, nous travaillons avec... à instiller vraiment au compte-gouttes le message au sein d'associations. Ces personnes âgées, on va pas mettre des personnes âgées, on va mettre des seniors et puis des gens qui sont isolés, parce que ces deux populations qui sont un peu complémentaires ont besoin d'abord de reprendre confiance. Et ça, c'est très important. Ils ont souvent perdu confiance en la chose publique. Donc, CAIE n'étant pas public, c'est vrai qu'on a cette facilité à passer de dire que nous ne sommes ni l'un ni l'autre, ni politique, ni État. Et pour vouloir passer un message qui est mesuré, à des créneaux mesurés, donc voilà, on peut y aller aussi, mais on peut se trouver aussi bien en rendez-vous avec eux le samedi matin que très tard le soir, de façon à passer, un peu comme les réunions Tupperware en fait, on travaille un peu comme ça, à aller rencontrer les gens dans leur intimité, dans des petits groupes qu'ils ont constitués, pour à chaque fois former si, autant que possible des sortes d'ambassadeurs qui vont nous aider à refaire passer le message. Donc c'est vraiment comme ça qu'on travaille pour le moment en Martinique. Les leçons qui se sont imposées à nous, quand je dis à nous, c'est toute la Martinique et tous les acteurs du développement et l'aménagement. C'est que l'aménagement classique, comme on l'apprend à l'école, n'est absolument pas couronné de succès dans nos latitudes. Pour la bonne et simple raison que je vous ai dit tout à l'heure, on a une histoire avec des résiliences, certaines autres choses. Le climat aujourd'hui, le climat social, économique, enfin le coût de la vie simplement fait les gens se refermer un peu autour de leur essentiel. Et le petit essentiel qu'ils ont devient de plus en plus procédurier pour le coup. Donc la leçon que l'ensemble d'entre nous pourrait tirer de notre expérience antillaise, c'est qu'il faut absolument aujourd'hui faire les gens. Avant on disait faire avec... Mais on est de plus en plus en train de faire, donc former des autodéterminants, des gens qui sont vraiment capables, à travers les conseils citoyens, à travers des choses, les faire monter en compétences. Alors bien sûr, ça nécessite nous, CAIE, d'apprendre à faire. mais former à la fois des acteurs de terrain, des acteurs qui vont être aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des ambassadeurs qui vont faire passer le message, qui vont participer à la pacification d'un quartier, des choses comme ça. On a besoin de territoires pacifiés réellement, parce qu'il faut bien vous imaginer que sur un petit territoire comme le nôtre, vous avez des leviers qui se contredisent de temps en temps, les services de l'État, la DEAL pour ne pas les nommer, l'agence d'urbanisme qui est présente en Martinique, le CAUE de son côté, le rectorat, enfin bref, tout le monde fait un peu ce qu'il veut faire, doit faire. Mais on a besoin de cohérence, et dans toute cette incohérence, dans tout ce brouhaha d'actions qui sont plus ou moins chères, plus ou moins déstructurantes pour des gens, les gens sont perdus et perdent confiance. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, c'est de remettre les gens, la population, au centre du projet. Nous avons besoin aussi de redonner ces lettres de noblesse à la notion de programmation, parce que c'est aussi des choses... On a beaucoup fonctionné à coup d'appel à projet, on lançait une étude qui correspondait à un appel à projet national, mais qui du coup ne répondait pas forcément à un besoin de la population. Alors forcément on peut faire les gens adhérer à un projet, mais tôt ou tard il va capoter, parce que ce n'est pas l'urgence des gens.
Ménager les territoires est une série de podcasts imaginée par les CAUE, contributeurs aux universités d'été de juillet 2023. Conception et rédaction, Sylvia Dubost. Réalisation, Stéphane Bolz.